Jésus marche sur la mer agitée. L'amitié que Jésus porte aux siens retrouvera sa vigueur particulièrement sensible dans les récits de la tempête apaisée, dans la nuit qui suivit la multiplication des pains. Tout était noir. Jésus, devinant l'action des siens, décidé à le faire roi, en manœuvrant la foule, encore sous les coups du prodige, bouscule les événements et prend découvre ses apôtres. Il les force à s'embarquer, nous disent Marc et Matthieu et Jean, dans un raccourci, nous les montre déjà en mer, dans l'obscurité, inquiets de l'absence de Jésus et aux prises avec une mer déchaînée. Et déjà l'obscurité s'était faite, et Jésus n'était pas encore venu auprès d'eux, et la mer se soulevait au souffle d'un grand vent. Évangile de Jean 6, 17 à 18. Rien de mieux que cette coïncidence soulignée des ténèbres qui les gagnent et l'absence de Jésus ne peut nous faire mieux saisir la place qu'occupait Jésus dans le cœur et la vie de ces hommes. Lui absent, tout était ténèbres et tempêtes. Lui présent, tout était lumière. On sent dans ces deux versets l'attente de Jésus dans le soir de la part des siens. Marc et Matthieu, de leur côté, ont noté les réactions de Jésus. Il vient donc de contraindre ses apôtres à voir s'effondrer le rêve du royaume terrestre et s'embarquer, il est tout seul, seul à comprendre la vanité du pouvoir et l'essence du royaume, seul à prier le Père pour eux et pour cette foule qu'il vient de congédier. Mais ses yeux ne quittent pas ses amis. De la montagne, il les suit. Il les voit s'arc-bouter sur les rames, chassés vers la côte par la tempête, et n'y tenant plus, il les rejoint sur les lacs, car il les aime, et veut les tirer de cette mauvaise passe. À la quatrième veille de la nuit, vers 22 heures, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. Et en les voyant marcher sur la mer, ils furent troublés, disant, « C'est un fantôme !» Et de peur, ils poussèrent des cris. Évangile de Matthieu 14, 26 à 27. Apeurés à en pousser des cris devant cette marche nocturne sur les lacs, il se calme aussitôt à la seule affirmation de son identité. Il leur parle en disant, « Courage, c'est moi, ne craignez rien. » Évangile de Matthieu 14, 27. Sa voix, le simple timbre de sa voix suffit pour effacer la terrifiante vision, ramener le calme et la confiance. Dans ce récit de la tempête apaisée et de la marche sur l'eau, ce qui frappe dans cette toute puissance, c'est sa simplicité. Elle ne requiert aucun moyen. Elle agit sans précaution de temps. Immédiatement, les éléments obéissent. Jésus veut-il calmer l'effroi qui s'empare des siens devant sa marche nocturne sur le lac? Il se présente seulement aux siens. C'est moi, n'ayez pas peur. Cette voix provoque aussi chez Pierre une audace folle qui le lance sur la mer. Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur les eaux. Il dit, viens. Évangile de Matthieu 14, 28. À son apôtre apeuré qui s'enfonce dans les flots, Jésus, dans un geste amical, n'étend que sa main et ne lui fait qu'un reproche. « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Dans cette scène de la tempête apaisée, de la marche sur l'eau et du repêchage des pierres, Jésus est apparu si grand, si beau et lointain qu'un seul mot monte aux lèvres des apôtres, qu'une même attitude les courbe tous. C'est le Fils de Dieu et il faut l'adorer. Ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent à ses pieds en disant, « Vraiment, tu es le Fils de Dieu. Évangile de Matthieu 14, 38. Ce cri n'est pas normal, il a quelque chose de fantastique, et les apôtres ne le poussent qu'avec une sorte de crainte, car c'est sûr, tout cet événement est formidable au sens propre du mot. Il engendre chez eux la stupeur. Il nous est bon de nous confier à la puissance du Seigneur, car sa puissance est simple et sans limite. Elle s'attaque à tout, s'étend à tous. Rien ne l'arrête. Il multiplie les grains dans leur propre mort pour les faire pousser nuit et jour, sans bruit et sans réclame, jusqu'aux moissons triomphantes. Si les grains ne tombent en terre et ne meurent, ils restent seuls. S'ils meurent, ils donnent beaucoup de fruits. Jésus est le malade. La religion de Jésus est le sacrement du monde. Jésus aimait le malade. Et le texte de Marc nous montre toute son attention à leur égard. Et ayant fait la traversée, ils vinrent à terre à Génézareth et abordèrent. Et quand ils furent sortis de la barque, aussitôt des gens qu'il avait reconnus parcoururent toute cette région et se mirent à apporter sur des grabats ceux qui étaient malades là où ils entendaient dire qu'il était. Et partout où il arrivait, villages, villes, hameaux, on déposait les malades sur les places et on les priait de les laisser toucher, ne fût-ce que la houppe de son vêtement. Et tous ceux qui les touchaient étaient guéris. Évangile de Marc 6, 53 et 56. On le sait, Jésus aime tous ces malades qui se désespèrent. On le sait si bien qu'à peine énoncé son passage, voilà que l'on part à la recherche de tous les déshérités pour les lui ramener. On les lui offre et lui ne repousse pas cette foule de misère, mais le laisse le toucher, toucher la houppe de son vêtement. Et à cette prière pleine de confiance des malades de Génézareth, Jésus ne sait répondre que par la guérison. Et tous ceux qui les touchaient étaient guéris. La religion de Jésus ne se perd pas dans l'abstrait. C'est la laine de son vêtement que l'on touche et qui guérit. C'est l'essence du sacrement. Cette fibre du monde nous annonce la puissance de Dieu et son amour, comme le pain et le vin de son dernier repas nous font déjà participer aux noces éternelles. Dans la vision de la foi, le monde créé tout entier, matière et esprit, devient signe de l'amour de Dieu répandu sur la terre. Jésus vient se servir de toute la trame du monde créé pour nous conduire vers le Père. Voilà pourquoi il se laisse toucher par les malades. Que la bonté de Dieu nous atteigne à travers la houppe de son vêtement. Jésus est l'espérance, discours sur le pain de vie, la vie éternelle. Jésus nous apporte une nourriture qui calme notre faim d'absolu. Procurez-vous non la nourriture périssable, mais la nourriture qui demeure pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donne, car c'est lui que Dieu le Père a marqué de son sceau. Évangile de Jean 6, 27. Nos vies, éclairées par ces paroles, prennent un tout autre sens. Notre soif d'un avenir solide et cohérent y trouve réponse. Je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura pas faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Évangile de Jean 6, 37. Car telle est la volonté de mon Père, que quiconque voit le Fils et croit en lui possède la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Évangile de Jean 6, 40. Il se donne vraiment comme la réponse définitive, celle qui transforme nos vies et les installe dans la vie éternelle. Je suis le pain de la vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le vrai pain descendant du ciel. pour que celui qui en mange ne meure pas. Évangile des Jean 6, 48 à 50. Il a l'audace de se donner comme la source même de la vie éternelle. Il la puise lui-même dans ce premier vivant qui est son Père. Voilà l'aventure à laquelle il nous convie. Celui qui dévore ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. De même que le Père qui vit m'a envoyé et que je vis pour le Père, ainsi celui qui me dévore, celui-là vivra pour moi. C'est ici le pain descendu du ciel, non pas tel que celui qu'ont mangé les pères, et ils sont morts, celui qui dévore ce pain vivra à jamais. Évangile des Jean 6, 57 à 58. Voilà ce qu'il nous propose. Le sacrifice du Christ Jésus, discours sur le pain de vie, l'acceptation de notre condition humaine. Le sacrifice a toujours été l'acte essentiel de toutes les religions. Il visait à rendre sacré, privilégié, les relations entre l'homme et Dieu. Le sacrifice de Jésus n'y échappe pas, mais il rejoint Dieu, non pas dans l'offrande d'une victime extérieure à nous-mêmes, mais dans une acceptation parfaite de la volonté de Dieu à notre égard, jusque dans notre mort. C'est moi qui suis le pain vivant, descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra à jamais. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, livrée pour la vie du monde. Évangile des Jean 6, 51. Ce pain vivant, qui apporte une vie nouvelle à l'homme, c'est la chair livrée pour la vie du monde. L'allusion à sa mort est nette. C'est cette chair livrée à la volonté du Père dans la mort qui achemine l'homme au-delà de la vie terrestre, vers la vie éternelle. Il y a déjà posé là toute l'acceptation par Jésus de la condition humaine, condition des créatures finies et mortelles, s'abandonnant à la volonté du Père. Jésus, dans la communion à sa chair livrée, à son sang versé, nous invite à venir puiser près de lui la force d'accepter comme lui notre propre condition d'homme mortel. Il nous demande d'avoir confiance en son Père, qui l'amène et le conduit, lui, le Fils de l'homme, vers sa propre résurrection, gage de la nôtre. Mais ses paroles sont esprit, et sans la foi, elles nous rébuteraient, comme elles rébutèrent les Juifs, ses contemporains. En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous ne posséderez pas la vie en vous-même. Celui qui dévore ma chair et boit mon sang possède la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Évangile des Jean 6, 53 à 55. Jésus, dans les banquets eucharistiques, nous invite à dévorer cette chair livrée, à boire ce sang versé, signe de son abandon au Père dans la mort. Il nous y invite donc à le rejoindre totalement dans cette acceptation de ce que nous sommes, des hommes mortels qui croient, comme lui, à l'amour du Père. La communion reste donc la plus géniale invention de l'amitié et du cœur d'un Dieu à notre égard. Dans la confiance unie au Fils de l'homme, à travers les épreuves comme à travers les joies, nous voilà en marche vers la résurrection, fortifiés par ce pain super nourrissant que nous donne le Père éternel. Jésus et l'amitié, après la multiplication des pains, abandon. Après le miracle de la multiplication de pain, Jésus explique longuement aux Juifs de la synagogue de Capharnaüm que le vrai pain de vie, c'est lui. Beaucoup de gens n'y comprennent rien, même ses disciples. L'ayant donc entendu beaucoup de ses disciples dire « Cette parole est dure, peut-on seulement l'écouter ?» Évangile de Jean 6, 60. On sent toute la tristesse du Seigneur dans ses interrogations amicales adressées aux siens, car il perçoit nettement qu'il est totalement incompris. Jésus, sachant lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, « Cela vous scandalise? Que sera-ce donc si vous voyez le Fils de l'homme montant où il était d'abord? C'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. » Évangile de Jean 6:61. Son amitié souffre, car il parle de ce mystère de l'amitié poussé si loin dans ce partage du pain et du vin consacré, de ce mystère d'union et de communion au pain de vie descendu du ciel, et ses paroles scandalisent. Et pourtant, ces paroles ne sont pas les siennes, mais celles de celui qui l'a envoyé, le Père. Il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient pas, car Jésus savait dès le commencement quels étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui les trahirait. Évangile de Jean 6:64. Mais pour croire, il faut être attentif à cet esprit du Père, à cette voix du Père en nous, pour comprendre cette amitié de Dieu. Et il disait, « C'est pour cela que je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. » Évangile de Jean 6:65. Combien lui fut douloureux cet abandon des disciples aimés, compagnons des marches à travers toute la Palestine. Dès un moment, beaucoup de ses disciples cessèrent de le suivre et n'allaient plus avec lui. Évangile de Jean 6:66. Et jaillit cette dernière question à l'intention des douze, qui montre toute l'angoisse de son cœur. Jésus dit donc aux douze, « Et vous aussi, voulez-vous vous en aller ?» Évangile de Jean 6:67. Heureusement, la réponse de Simon-Pierre redonne visage à l'amitié profonde qui unit ces douze à Jésus. Il n'envisage même pas de quel côté ils pourraient se tourner si Jésus venait à leur manquer. Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu possèdes des paroles de vie éternelle, et nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » Évangile de Jean 6:69. Oui, ils ont raison de l'aimer et de le considérer comme la source de la vie éternelle. Ce sont des amis fidèles, les seuls. Ne les a-t-il pas choisis lui-même, ces douze? Et pourtant, dans cette si belle amitié, une faille. On sent dans la réserve de Jésus, comme dans les commentaires de Jean, cette stupeur devant l'amitié trahie. Jésus leur répondit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi tous les douze? Et pourtant, l'un de vous est un démon. » Il parlait de Judas, fils de Simon Iscariote, car il devait le trahir, lui, un des douze. Évangile de Jean 6:71. Jésus et la foi, la prière essentielle. Ce sont le Père et l'Esprit Saint qui nous invitent à croire. Dans la foi en Jésus, il y a un double jeu des forces qui se rencontrent. L'amour provoquant d'un Dieu et notre propre liberté. Car notre liberté entre toujours en jeu. Il nous faut nous engager et croire aux paroles de Jésus, l'envoyé du Père. Et ce n'est point aisé, car les paroles de Jésus nous lancent dans une aventure que notre raison comprend mal. Jésus nous en avertit. Les paroles que je vous ai dites sont esprit. Elles sont toutes vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient pas. Évangile de Jean 6:63. La foi pour Jésus est d'un ordre complètement étranger aux préoccupations de la chair. Pour comprendre ses paroles à lui, Jésus, il nous faut les envisager dans la lumière de l'Esprit. C'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Évangile de Jean 6:63. Et Jésus souligne qu'en fait, il est impossible à l'homme de croire à ce mystère de la vie divine qui nous est offerte si le Père ne nous y engage lui-même dans sa tendresse, tant cette vérité est abrupte est rude à avaler pour notre raison. Pour Jésus, la source, l'origine de la foi viennent et sortent du Père qui nous attire. Mais il en est parmi vous qui ne croient pas. C'est pour cela que je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. Évangile de Jean 6, 64 à 65. Jésus souligne d'ailleurs qu'il n'y a qu'une liaison directe et étroite entre le manque de foi en lui et l'abandon de Judas. Il ne croyait pas en lui. Il était tout près de le trahir, car Jésus savait dès les commencements quels étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le trahirait. Évangile de Jean 6, 64. L'amour de Jésus vient toujours du Père. C'est un don du Père. À nous de demander cette grâce, et ce don par excellence pour nous et pour les autres, d'où la nécessité de prier le Père pour ceux qui n'ont pas la foi, pour que l'Esprit les éclaire et leur fasse connaître le chemin qui mène vers lui. C'est là la prière essentielle, celle que Jésus nous recommande. Votre Père céleste accordera l'Esprit Saint à ceux qui le demandent. Évangile de Luc 11, 2. Jésus est l'espérance, l'infirme de la piscine de Bézata, une religion ouverte, seule importe l'amour. Jésus nous libère d'une religion encore empreinte des craintes originelles de l'homme, lorsque les forces de la nature l'écrasaient et qu'il voulait s'en préserver par des multiples tabous. Pour lui, l'homme passe en premier, et les interdits du sabbat ne sont faits que pour l'aider à mieux retrouver Dieu Père dans la tranquillité d'un jour férié, mais non pour ignorer la détresse de ses frères. Jésus dit à l'infirme de Bézata, « Lève-toi, prends ton grabat et marche. » Et aussitôt l'homme fut guéri et prit son grabat, et il marchait, or c'était un jour de sabbat. Évangile de Jean 5, 8 à 9. Les Juifs disaient donc à celui qui venait d'être guéri, « C'est un jour de sabbat et il n'était pas permis d'emporter les grabats. » Et c'est pour ce motif que les Juifs persécutaient Jésus, parce qu'il faisait de pareilles choses pendant le sabbat. Évangile de Jean 5, 16. Mais Jésus leur répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent, et moi aussi j'agis. » Évangile de Jean 5, 17. Ni les Pères, ni Jésus, ne nous enferment dans une religion des multiples règlements. Notre Dieu est un Dieu de tendresse qui nous guérit et nous invite à nous libérer du péché, le seul mal en définitive. Jésus trouva son miraculé et lui dit, « Te voilà guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive pire. » Évangile de Jean 5, 14. Le mal absolu, le voilà, c'est le péché, car le péché, c'est plus terrible que 38 ans de paralysie. Étonnant Seigneur, qui ose nous dire de telles vérités. La guérison de l'infirme à la piscine de Bézata nous montre Jésus face à la souffrance d'un homme malade depuis 38 ans, et pourtant il lui demande d'abord s'il veut être guéri, comme si le mal absolu ne résidait pas là, dans sa maladie. Jésus les voyant couchés, et sachant que cet état durait depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Évangile de Jean 5, 6. L'infirme se plaint qu'il n'a personne pour les jeter dans la piscine au bouillonnement de l'eau. L'action de Jésus, elle, sera instantanée. « Lève-toi, prends ton grabat et marche. » Évangile de Jean 5, 8. Jésus, source de vie. Jésus, le Fils, fait vivre ceux qu'il aime. Il aime comme le Père, avec cette même force divine. Elle est sort de ceux qui se confient à lui, c'est la vie éternelle. En vérité, je vous dis que celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Et il n'est pas mis en jugement, mais il a passé de la mort à la vie. Évangile de Jean 5, 24. Voilà la manière de faire de Jésus. En vérité, je vous le dis, que l'heure vient, et c'est maintenant, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Évangile de Jean 5, 25. Jésus, Fils de Marie, l'un des nôtres, par amour, est le chemin qui conduit vers la vie éternelle, vers ce Dieu vivant dont il nous parle. Il nous faut écouter le Fils et croire en celui qui l'envoie, le Père. Les deux grandes lois du silence et de la foi. Écouter Jésus, croire à ses paroles. Oui, Jésus donne la vie éternelle à celui qui écoute sa parole et qui y croit. Cette parole, ce Verbe puissant dont l'essence est vie, fait passer de la mort à la vie tout croyant. Et la source profonde de cette puissance qui nous rassure réside dans cette unité de vie entre Jésus et le Père. Car de même que le Père a la vie en lui, ainsi a-t-il donné au Fils d'avoir la vie en lui. Évangile de Jean 5, 26. Jésus redonne sens à nos vies. L'homme a conscience, depuis des millénaires, de n'être pas un animal ordinaire. Peu à peu, il a rencontré Dieu au cœur même de son être et de ses désirs insensés de vie future. Les tombeaux de tous les peuples nous les montrent. Jésus révèle aux Juifs sa vraie mission et la folle espérance qu'il nous apporte de la part du Père. Le Père l'aime et lui montre tout ce qu'il fait. Jésus reprit donc la parole et il leur disait, « en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même s'il ne le voit faire au Père, car ce que fait celui-ci, le Fils le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et il lui montre tout ce qu'il fait et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, de sorte que vous soyez dans l'étonnement. » Évangile de Jean 5, 19 à 20. Alors là, ils en auront les souffles coupés, car, qu'ils se le disent, les grands pouvoirs de Jésus, c'est le pouvoir essentiel sur la vie. Le Père ressuscite les morts, et les fait vivre, mais le Fils, lui aussi, fait vivre qui il veut. Évangile de Jean 5, 21. Reconnaître le Fils, écouter sa parole et le regarder comme l'envoyé du Père, voilà les conditions pour posséder la vie éternelle et trouver la solution à cette éternelle question, tourment de tous les hommes. Quel est donc le sens de la vie et de la mort? Si bien que le Père ne juge personne, mais il a remis au Fils le jugement tout entier, afin que tous honorent le Fils qu'il a envoyé. Évangile de Jean 5, 23. Jésus apporte ici sa réponse. Celui qui croit en lui passe de la mort à la vie. En vérité, je vous dis que celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé, à la vie éternelle, et il n'est pas mis en jugement, mais il a passé de la mort à la vie. Évangile de Jean 5, 24. Jésus redit à ses contemporains avec force qu'il est bien celui que toute l'humanité attend, l'espérance promise à Abraham et annoncée par toute l'Écriture sainte. Vous scrutez les Écritures parce qu'il vous paraît avoir en elles la vie éternelle. Et ce sont elles qui me rendent témoignage, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Évangile de Jean 5, 39.